C'est quoi être un ingénieur? C'est la question que je me pose depuis bientôt 5 ans. 5 ans que je fais mes études à l'INSA, 5 ans que chaque jour, j'en apprends un peu plus sur ce mot si particulier. Pourtant, c'est comme si j'avais raté quelque chose. Dans 6 mois, je vais être diplômé et j'ai l'impression de n'avoir compris qu'un dixième de sa définition. C'est pourquoi j'ai décidé de partir à la rencontre d'anciens étudiants, de chercheurs, de professeurs, bref, de tous ceux qui pourraient m'éclairer de leur expérience sur ce métier qui m'attend demain. Bonsoir à tous, je m'appelle Adrien et il me reste 6 mois pour donner un sens au mot « ingénieur ».
L'ingénieur R&D, il va utiliser un modèle pour créer son artefact sans forcément comprendre complètement, alors que le chercheur, lui, va plutôt chercher à mettre en évidence des phénomènes dans la vue d'aboutir à un modèle. Ils ont tous les deux en commun de savoir appréhender un système complexe. La vraie différence avec la recherche, c'est que dans la recherche, on peut se permettre de prendre du temps pour comprendre plus en profondeur des phénomènes.
La recherche. C'est fou, mais j'ai toujours cette image un peu cliché du scientifique chimiste dans sa blouse avec des lunettes en train de faire tout exploser dans son labo. C'est tellement plus complexe que ça. Surtout à l'INSA, quand on voit toutes les spécialités qu'on a, en fait la recherche c'est bien plus complet. Et comme j'y connais rien, le mieux c'était d'aller voir un étudiant qui, lui, était dans une thèse, qui justement était dans cette période de recherche avant de devenir chercheur, enseignant-chercheur. Pour ça, je me suis tourné vers Adrien Prévost, qui est en train de faire une thèse actuellement, en tout cas au moment où on a enregistré le podcast, et qui nous parle, à travers cet épisode, de la question que je me posais le plus. C'est quoi la différence entre un chercheur et un ingénieur? Et vous allez le voir, finalement, c'est assez proche, il y a des similitudes, mais je trouve qu'il en parle bien mieux que moi. Alors je vais le laisser vous expliquer, et peut-être qu'à travers cet épisode, vous comprendrez un peu mieux la réflexion que j'ai pu me poser sur la recherche.
Moi, c'est Adrien, je suis doctorant en première année au laboratoire Ampère. J'ai 25 ans et puis je sors de l'INSA dans lequel j'ai fait le département en génie électrique.
Ok. Voilà. Et tu fais quoi dans cette thèse du coup
Je travaille sur le pilotage et le dimensionnement des génératrices pour le petit éolien.
D'accord.
Voilà. Donc, ok. L'éolien domestique. Donc à l'échelle d'une ferme ou d'une habitation ou même... pour intégrer une source d'énergie renouvelable dans un micro-réseau.
Ok, qu'est-ce qui t'a poussé à tourner vers ça, t'amener vers la recherche et vers ce domaine-là?
C'est tout naturellement dans mon parcours. Donc j'ai fait un IUT.
Ok.
Et mon stage de fin d'études en IUT, ça a été dans un laboratoire de recherche en Crète. Et donc, c'est un laboratoire de recherche sur les petites éoliennes. Et du coup, j'ai participé à l'instrumentation d'un banc d'essai d'un certain type de génératrice pour le petit éolien. Et puis en revenant à l'INSA, en entrant à l'INSA l'année d'après, j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait un stage dans ce domaine-là. On a discuté, j'ai rencontré via un stage d'autoconstruction de petites éoliennes sur le campus de l'INSA lors du carnaval humanitaire. Mmh. J'ai pu voir qu'on pouvait construire une petite éolienne de A à Z avec assez peu d'outils finalement, et j'ai trouvé ça fantastique. Donc j'ai voulu faire mon stage dans l'entreprise qui dispensait le stage.
Okay.
Et voilà, qui a accepté. Du coup, j'ai fait mon stage de 4e année en GE dans cette petite entreprise, et je me suis éclaté. Voilà, donc j'ai adoré ça, j'ai adoré ce côté, être assez autonome pour rechercher comment designer un petit régulateur de charge de batterie voilà, que j'ai publié en open source. Et à côté de ça, j'animais des stages d'autoconstruction de petites éoliennes,
ouais.
Les éoliennes Pigott, du nom de son inventeur.
Des stages pour...
pour apprendre à faire son éolienne, en fait.
Genre de chez soi.
Par exemple, un particulier a envie d'installer une éolienne chez lui, ou une collectivité, ou une mairie, ou quelque chose comme ça. Et donc, on va organiser un stage sur le lieu où va être installée l'éolienne, en général. On est une dizaine de participants, il y a deux ou trois animateurs, un atelier bois pour les pales, un atelier métal pour... faire la nacelle, le mât, et puis un atelier électrique pour faire la génératrice, etc.
D'accord.
Donc on fait tout à la main, avec des outils simples. Et, voilà. Et du coup, dans ce stage-là, j'ai beaucoup aimé ces deux choses-là, avoir mon coin, être dans mon coin un peu tout seul pour designer ce régulateur de charge de batterie qui allait servir à être installé sur des petites installations de production d'énergie. Mmh. Et de temps en temps, avoir des périodes un petit peu en dehors de ça, et faire une semaine de stage et transmettre un peu de la connaissance et apprendre ça.
Et du coup, tu as prolongé après l'expérience en disant « je pars sur une thèse pour vraiment approfondir ce sujet-là ».
Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études au Labo Ampère sur cette thématique.
Okay.
Après avoir fait un Erasmus, un master sur les énergies renouvelables en Angleterre. Et du coup, c'était chouette parce que j'ai pu continuer à approfondir ce sujet-là, de comprendre un peu mieux ce qui se passait dans la machine. Mmh. Parce que du coup, j'ai commencé mon PFE avec un spécialiste des machines électriques et de la commande des machines électriques. Et puis, au cours de mon PFE, on se posait la question de comment continuer ces travaux-là, qui étaient intéressants. Et du coup, la thèse a été une de ces options-là. D'accord. Et ça n'avait pas été direct, en fait. C'est rigolo, je me suis retrouvé un petit peu forcé à devoir choisir assez rapidement parce qu'il y a un financement, donc il y a une salve de financement de thèse financée par l'INSA qui s'appelle les thèses enjeux.
Okay.
Donc il y a des thèses sur les enjeux, c'est sur les enjeux sociétaux et environnementaux. Donc il y a l'enjeu transport, l'enjeu énergie, l'enjeu santé, je ne me rappelle plus des autres. Et donc c'est des thèses qui sont censées adresser ces enjeux-là à travers le sujet de thèse. Et du coup, moi, j'avais proposé à l'enjeu énergie une thèse sur l'amélioration du pilotage pour l'amélioration du rendement des petites éoliennes. Voilà.
Ok.
Et du coup, ce financement-là, il se trouve que j'avais une semaine pour écrire un sujet. Donc, j'ai co-écrit un sujet. Je l'ai déposé, ça n'a pas marché. Mmh. J'ai fini deuxième sur le financement. Et donc, j'ai eu la chance d'être embauché en CDD pour pouvoir continuer mes travaux pendant un an.
Auprès du laboratoire ?
Auprès du laboratoire Ampère. Okay. Donc, je n'ai pas été directement en thèse, mais j'ai eu un an pour préparer mon arrivée en thèse et me poser des questions aussi sur est-ce que j'avais envie de continuer là-dedans. Et puis, donc, j'ai pu réécrire mon sujet de thèse, on l'a reproposé, il a été accepté l'année d'après.
Et maintenant,
du coup, me voilà en thèse depuis 4 mois.
Ok, super. Ouais. Et alors, du coup, le stage que tu as fait au démarrage, donc c'était plus un stage ingénierie R&D, si je comprends bien, quand tu avais fait...
C'est un peu ça, ouais.
Ouais. Donc, c'était moins côté recherche.
C'est ça, ouais. C'était plus de la R&D électronique. Ouais.
Ok. Bon, on reviendra sur ce point-là après, qu'on en discutera. C'est quoi la journée typique D'ailleurs, on dit étudiant, thésard. Est-ce que tu es encore considéré étudiant quand c'est...
Alors, officiellement, oui, on est considéré comme étudiant, mais on est... parce qu'on a un titre d'étudiant, on est inscrit à l'école doctorale. Donc, on est étudiant à l'école doctorale. Par contre, on est embauché en CDD.
D'accord.
Donc, c'est un CDD de mémoire un an, renouvelable après la première année, pour 2 ans.
Ok. Et du coup, c'est quoi la journée typique d'un étudiant en thèse ?
Eh bien, la journée typique d'un doctorant, justement, c'est qu'il n'y en a pas.
Ok.
et qu'elle fluctue au fur et à mesure des semestres, de la période de la thèse. Mais justement, c'est chacun... En fait, si on a envie d'une journée type, on peut s'en organiser une.
Mmh.
Mais si on n'en veut pas, on n'est pas contraint d'en avoir une. Voilà.
Ok, c'est très. C'est à toi vraiment de gérer ton temps.
Voilà, c'est ça. Alors après, ça doit dépendre aussi, je pense, du rythme. Du type de la nature de la collaboration qu'il y a avec l'équipe encadrante.
Mmh.
Et aussi, si la thèse est avec un financement académique ou si c'est une thèse chiffre, c'est-à-dire qui est financée par une entreprise. Là, il peut y avoir plus de contraintes, notamment des réunions avec l'entreprise, des points d'avancement. Voilà.
Oui, donc tu as quand même une demande d'objectif, en fait, peut-être tu as des attentes que tu dois remplir, mais après, c'est à toi de te gérer pour comment remplir ces attentes.
Ouais, au niveau d'une thèse chiffre, je ne sais pas, mais dans une thèse académique, c'est un peu ça. Ouais. Il y a des objectifs... qu'on se fixe avec les encadrants de thèse et puis derrière c'est à nous de nous organiser pour pour y répondre.
Ok, j'aimerais bien qu'on vienne sur cette parce que ça va être un peu la grande question aujourd'hui, la différence entre ce que tu as vécu en stage Et maintenant, aujourd'hui que tu es en thèse, est-ce que tu as vu des différences entre les deux? Est-ce que c'était finalement équivalent entre de la R&D et de la recherche fondamentale en laboratoire?
Alors ouais, entre mon stage de quatrième année et puis la thèse, la grosse différence, c'était que la R&D, j'avais un objectif qui était finalement de dimensionner, de designer, de mettre au jour un artefact, un objet technique qui allait servir à un but précis. Voilà, et du coup, j'avais des contraintes qui étaient exprimées, donc parfois implicitement, parfois explicitement par mon tuteur de stage. Et donc, je devais me débrouiller pour que, dans un certain délai, ce régulateur, il marche, il soit testé, il soit publié. Et voilà,
il soit fonctionnel.
Il soit fonctionnel, ouais. Et donc, il y a ce côté un peu pragmatique de gérer son temps pour atteindre l'objectif. Et du coup, ne pas s'étaler dans certains détails. Donc, on n'a pas le temps de tout comprendre, en fait. Tant que ça marche, il faut que ça marche. Et je trouve que la vraie différence avec la recherche, c'est que dans la recherche, on peut se permettre de prendre du temps pour comprendre plus en profondeur des phénomènes. Et que le livrable, ce n'est pas l'artefact, mais c'est le modèle. Donc, l'ingénieur R&D, il va utiliser un modèle pour créer son artefact sans forcément le comprendre complètement. Alors que le chercheur, lui, va plutôt chercher à mettre en évidence des phénomènes dans la vue d'aboutir à un modèle. Alors, c'est très général et comme définition, mais peut-être que ça ne reflète pas exactement ce qui se passe, mais pour l'instant, c'est l'idée un petit peu que je m'en fais.
Ok. Ouais. Et tu, actuellement, toi, entre les deux, tu préfères peut-être plus la thèse, du coup?
Alors, c'est intéressant comme question parce que, du coup, moi, je suis rentré dans la recherche c'est par l'artefact. En fait, c'est l'artefact petite éolienne qui m'a fait rentrer dans la recherche. Finalement, c'est l'objet technique que j'ai cherché à comprendre.
Ouais.
Et en tirant la ficelle, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de phénomènes à comprendre dans la génératrice. Et donc, vu que je suis un grand curieux, j'ai eu envie de comprendre toujours plus loin.
C'est plus le sujet qui t'a amené à passer par cette voie-là que plus la voie en elle-même qui t'a amené au sujet.
C'est peut-être un peu ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est aussi parce que moi, j'aime bien avoir du temps pour essayer de comprendre des trucs. Et j'ai l'impression que la thèse, c'est un peu le meilleur cadre pour ça. C'est qu'on te donne 3 ans pour explorer un sujet.
Ouais, t'as du temps.
T'as du temps pour le faire, quoi. Et pour le faire bien,
okay.
Si tu veux. Donc ça, c'est chouette.
C'est sympa. Ouais. Au niveau des... La question que je me pose, en fait, c'est aujourd'hui, donc, tu te rapproches plus du métier de chercheur. Enfin, t'es chercheur, même, on peut dire.
Ouais, on peut dire ça, apprenti chercheur. Ouais.
Un débutant chercheur. Est-ce que tu te considères aussi, quelque part, encore un petit peu ingénieur dans ce métier-là?
Ouais. En fait, je pense que c'est intéressant d'avoir été ingénieur avant d'être chercheur.
Ouais.
Parce que finalement, l'ingénieur, il a ce côté un peu pragmatique de savoir trouver une solution à un problème technique, quitte à ne pas tout comprendre, mais faire un truc qui marche. Et ça sert énormément pour les expérimentations. Moi, par exemple, j'ai fait, donc, pendant mon année d'ingénieur d'études pour préparer ma thèse, j'ai mis au point un banc d'essai pour les génératrices d'éoliennes, de A à Z, donc dessiner la méca, ensuite faire le circuit électrique, etc., instrumenter, vérifier que les mesures correspondent à tout ça. Et tout ça, en fait, c'est de l'ingénierie, c'est pas de la recherche. Et du coup, j'ai fait 1 an d'ingénierie avant de faire de la recherche. Donc, je pense que c'est intéressant d'être ingénieur pour comprendre les outils dont le chercheur se sert pour faire de la recherche.
Ouais. Mais est-ce que dans ton utilisation là, au quotidien, dans ton travail, tu te considères encore aujourd'hui ingénieur?
J'ai une formation d'ingénieur. Après, je pense que c'est une question de... C'est un ressenti personnel. Je me sens ingénieur parce que je suis capable de faire l'ingénierie.
Ouais.
Je me sens apprenti chercheur parce que je ne me sens pas encore capable de faire de la recherche.
Ouais.
Voilà, c'est ce que je peux répondre.
D'accord, ça marche. Du coup, on a parlé un petit peu de la différence entre les deux. Est-ce que, donc toi, Tu n'as pas de chance parce que tu vas avoir la double question. La question phare du podcast, c'est quelle est ta définition du moins ingénieur ? Donc ouais. J'aimerais, si tu arrives à en donner une,
ouais, je vais
et je vais aussi te demander du coup, quelle serait ta définition de chercheur pour essayer de voir un peu cette différence entre les deux. Tu peux faire les deux en une si tu préfères. Ouais. Ouais,
vas-y. Je pense que je vais me répéter un peu, mais je pense que l'ingénieur, c'est quelqu'un... Alors, ils ont tous les deux en commun... de savoir appréhender un système complexe.
Ouais.
L'ingénieur va être capable de résoudre une problématique avec des solutions pragmatiques en lien avec ce système complexe. Et le chercheur, il va être capable d'aller plus loin dans la compréhension de ce système complexe pour fournir un modèle de comportement ou de représentation de ce système qui va pouvoir être utilisé ou pas par un ingénieur plus tard.
Ok. Belle définition. On va plus s'attarder maintenant sur le métier de chercheur, donc sur ton métier au quotidien. Est-ce que tu pourrais me donner plus ou moins 3 points négatifs dans ton métier ? Le genre de points pour lesquels un étudiant se dirait « si moi je vois ça dans mon quotidien, ça ne me conviendrait pas ».
J'ai un peu du mal avec cette question parce que je trouve qu'il y a deux questions en fait.
Vas-y.
J'ai l'impression que... Un point est négatif à partir d'un certain point de vue, donc ils peuvent être négatifs pour moi et positifs pour d'autres. Et du coup, je préfère peut-être essayer de donner des motivations à faire de la recherche que certaines personnes pourraient ne pas avoir et donc pourraient se dire j'ai pas ces motivations.
Si tu veux, on va la retourner dans l'autre sens. Ouais. Après, on fera les motivations.
Ok.
Qu'est-ce qui, toi, aurait pu te rebuter en fait ? C'est plus ça la question. C'est-à-dire les quelques points où tu te dis ça, c'est vrai que c'est pas le meilleur.
Hmm.
Et après, on fera l'autre point. Donc, okay. Les quelques points qu'il faut te rebuter. Okay.
Alors, j'en vois un tout de suite. Il est pas forcément présent à chaque fois. Ça dépend vraiment de l'encadrement et du cadre de travail, mais c'est la pression à produire de la publication.
Okay.
Donc ça peut être perçu comme un point négatif, comme positif. Il y a des gens qui trouvent ça chouette qu'il y ait de la pression à publier parce que ça fait cracher de la connaissance.
Ouais.
Et il y en a d'autres qui pensent que, on noie le poisson un petit peu avec cette quantité phénoménale de papiers qui sortent sur les mêmes choses. Et donc cette pression, moi je la vois un petit peu comme négative parce que j'ai plus dans l'esprit de devoir publier un bon papier plutôt que trois qui disent un peu la même chose, quoi.
On revient sur cette notion de prendre le temps de faire les choses.
Voilà, c'est okay, ça. Ouais. Alors ça, c'est mon état d'esprit. Il y a peut-être des gens qui sont dans un bien état sûr. D'esprit un peu contraire. Donc cette pression à publier. Elle peut peut-être pousser à aller un peu plus directement vers quelque chose de publiable plutôt que vers quelque chose d'intéressant.
Oui.
Donc, il y a une espèce de course à la valorisation de la recherche à travers la publication. Et voilà. Il y a cet autre côté un peu négatif qui pourrait être toujours en lien avec la publication, le fait que finalement... les maisons d'édition de papier, les grands journaux font payer les abonnements une fortune aux universités alors que en fait, les chercheurs travaillent avec de l'argent public.
Oui.
Donc finalement, un chercheur qui a travaillé pour produire un papier va payer pour avoir à disposition d'autres papiers qui viennent de la même source de financement que ce qui a servi à le payer lui. Donc il y a c'est un peu le poisson qui se mord la queue.
Oui, je vois ce que...
Voilà, donc ça c'est un côté un peu... Il y a des courants de l'open science notamment qui cherchent à rompre ce cercle du profit autour de la connaissance et donc qui prônent la connaissance comme la connaissance ouverte, quoi.
D'accord.
Ça peut être un côté qui dérange, mais si on recentre un peu plus la discussion autour de est-ce que finalement la recherche c'est fait pour moi ou pas, est-ce que En fait, il y a deux questions. Est-ce que je suis fait pour la recherche? Est-ce que la recherche s'est fait pour moi? Est-ce que c'est la même question? J'en sais rien. Et je ne sais même pas s'il a une réponse.
Ouais, c'est pas évident.
Parce que je croise une diversité assez folle de profils, en fait.
Oui, tu as vraiment tout type. Ouais. Bah, déjà, rien que ton profil montre que tu vois, toi, tu étais venu pour approfondir un sujet que tu avais vu d'abord en artefact, comme tu disais. C'est pas, je sais pas si c'est quelque chose de commun ou pas, dans le, mais il y a l'impression qu'il y a beaucoup de profils différents de recherche.
Ouais, complètement. Il y a des gens qui, on leur a proposé une thèse, ils ont dit oui, et puis ils ont découvert après 3 ans qu'ils aimaient ça. Mmh. Il y en a d'autres qui veulent faire ça depuis très longtemps. Et puis, il y a vraiment de tout.
Est-ce qu'à l'inverse, tu as des points, du coup, ouais, qui te disent ça me motiverait bien à faire de la recherche?
Ça me motiverait bien. C'est ce côté à avoir du temps pour bien comprendre quelque chose, sans avoir la pression de produire quelque chose d'utile.
Ouais.
Je trouve que c'est... Moi, c'est un point que je trouve positif.
Ouais. Chercher à comprendre vraiment l'objet sans chercher la fonction directe d'usage. Ouais, quoi.
C'est ça.
Okay.
Avoir le temps de se poser les bonnes questions aussi. Le temps de se poser les questions sur le sens de la recherche. Le sens de la recherche qu'on fait, etc. J'imagine que dans une entreprise, quand il y a beaucoup de pression et qu'il y a des objectifs qui ont été décidés très très haut dans la hiérarchie, on n'a qu'une vision partielle. On participe à un petit bout d'un très gros projet, et donc peut-être qu'on perd un petit peu le sens de tout ça. Alors que quand on est chercheur, eh ben, on va rechercher une problématique dont on est moteur, acteur, qu'on cherche à comprendre. On cherche toujours à resituer l'objet de recherche dans son contexte.
Ouais.
Et donc, y a une espèce de prise de conscience globale de l'environnement de recherche, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais
si moi j'ai réussi à comprendre ce que tu... Il y avait d'autres points positifs peut-être que tu voulais citer, ou est-ce que je préfère passer à la suite?
D'autres points positifs, la collaboration. Je trouve que collaborer avec des scientifiques du monde entier pour contribuer à la connaissance commune, je trouve ça génial, quoi.
Ouais.
Le concept de travailler pour contribuer à la compréhension du monde en général.
Ça te donne un sens à ce que tu fais.
Ça donne vraiment un sens à ce qu'on fait, ouais. Même si les résultats, peut-être, moi j'ai, comment dire. Même si les résultats ne sont pas immédiats, ça peut être perçu comme un point négatif pour le coup.
Ouais.
C'est de voir qu'on ne contribue pas directement à l'amélioration de quelque chose, mais qu'en fait, peut-être les résultats et les modèles qu'on fournit vont servir dans 10 ans. Voilà. Donc, si on est avide d'objectifs à court terme, enfin d'utilité à court terme, c'est peut-être pas le meilleur truc, la recherche. Mmh. Voilà.
Okay.
Savoir se satisfaire en fait, de la compréhension des choses.
Une compréhension plus absolue que vraiment instantanée
Ouais. Et ça, par exemple, quelqu'un qui va vouloir se satisfaire d'un impact à court terme, il va être frustré dans la recherche parce que finalement la recherche n'a pas des impacts à très court terme, en général, enfin selon ma perception. Par contre, quelqu'un qui va satisfaire facilement de comprendre quelque chose, ça n'aura peut-être pas d'impact autour, mais ça va continuer à le motiver. Voilà.
Quel lien aujourd'hui tu peux faire entre ta formation, donc que tu as eu à l'INSA, et ce que tu fais aujourd'hui en tant que chercheur? Est-ce que tu te sers de beaucoup de choses que tu as appris? Qu'est-ce que tu en retiens? Quels outils te servent aujourd'hui dans ce que tu as appris à l'INSA?
Il y a autant des outils techniques que des outils intellectuels qui me servent.
Ouais.
Par exemple, je fais du MATLAB en recherche, j'ai fait du MATLAB en GE, donc ce que j'ai fait en GE me sert en recherche. Je dirais qu'en général, c'est cette capacité à appréhender les systèmes complexes, à savoir creuser et valider ses raisonnements. Ouais, c'est la méthode. Finalement, c'est la méthode scientifique en fait, qui me sert le plus. C'est ça.
Oui, c'est cette méthode, cette rigueur un peu qui te sert.
Ouais, capacité de travail et de réflexion sur un sujet qui va me permettre d'apprendre, d'être capable de rechercher des nouveaux outils qui vont me permettre de manipuler un concept ou voilà, sans l'avoir appris à l'école.
Ok. Tu parlais tout à l'heure de justement du fait que tu voyais pas forcément l'impact directement de ce que tu fais. Est-ce que tu as quand même une mesure un petit peu de l'impact de tes recherches sur le futur? Est-ce que tu as quand même une partie tangible de tout ça?
Ouais, bah justement, moi je fais à la fois partie de ceux qui arrivent à se satisfaire de comprendre des choses et ceux qui sont frustrés de ne pas avoir d'impact de leurs actions. Et du coup, justement, c'est pour ça que j'ai choisi un sujet qui, pour moi, peut avoir un impact dans les 5 prochaines années. C'est que le petit éolien autoconstruit, aujourd'hui, il sert principalement à l'électrification en milieu rural. Donc aujourd'hui, il y a peut-être un peu moins de 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. Et dans ces personnes-là, en fait, il y a des zones. Enfin, ces personnes-là habitent dans des zones géographiques avec plus ou moins de vent, mais dans celles dans lesquelles il y a du vent, peut-être que améliorer le rendement des moyens de production d'énergie qui sont appropriables par les individus, donc réparables, etc., et qui leur permettent de subvenir à leurs besoins grâce à l'énergie du vent, je trouve que c'est assez chouette. Alors ça se fait aujourd'hui déjà, mais si on peut améliorer un peu ça, c'est chouette aussi, quoi.
Oui, tu sais que sur ce sujet-là, a priori, ça devrait servir, quoi.
Si ça devait absolument pas servir, je pense que j'aurais un peu plus de mal avec la recherche. Et à ce titre-là, je fais partie d'une association qui s'appelle Wind Empowerment, qui est une association qui promeut l'éolien autoconstruit pour l'électrification en milieu rural durable. Et du coup, je participe à des activités de cette association et qui rassemble autant des acteurs du petit éolien dans le monde académique que des praticiens qui installent des systèmes, etc. Ou des ONG qui vont aller installer des systèmes dans des pays où il y a des zones qui n'ont pas accès à l'électricité, etc.
Il y a un site internet ou quelque chose?
Ouais, Wind Empowerment.
Ouais. Ok, on le mettra en lien dans le... On le mettra en lien, si jamais il y en a qui veulent jeter un œil, ils pourront.
Ouais.
J'ai une dernière petite question, parce que mine de rien, on parle pas mal, le temps file.
Le temps file.
On dit que l'INSA forme des ingénieurs humanistes. Est-ce que tu te reconnais dans ce terme, et qu'est-ce que ça t'évoque?
Alors, pour moi, un ingénieur humaniste, c'est un ingénieur qui est capable de mettre l'humain au centre des préoccupations, et donc la technique au service de l'humain, et qui est capable de critiquer la fin de la technique. En ce sens, je pense que l'INSA effectivement a ce souci là et pour moi, ce qui me permet de le... enfin, ce qui m'a permis de développer mon esprit critique à ce sujet-là, et c'est tout d'abord les cours d'éthique de l'ingénieur qu'on a eu en GE, qui ont été vraiment super. Et puis il y a le PPH, pour moi, qui est vraiment la brique centrale commune.
PPH, pour ceux qui connaissent.
Donc, c'est projet personnel en humanité.
Ouais.
Donc, de ce que j'ai perçu, c'est mettre l'humain au centre d'une problématique et y répondre sous un format libre. Ça peut être un podcast, une pièce de théâtre, un texte, etc. Et moi, j'ai décidé de prendre une année de césure pour faire mon PPH parce que j'avais un besoin viscéral de répondre à une question, de mieux comprendre quelque chose, en fait, finalement, qui était finalement le phénomène de l'effondrement de nos civilisations thermo-industrielles.
Okay.
Et j'ai eu besoin de comprendre ce phénomène, les gens qui en parlaient, d'explorer des trucs. Donc j'ai écouté des podcasts, j'ai lu plein de trucs, j'ai fait un service civique dans un journal écolo. Enfin, j'ai essayé d'explorer un peu plein de voies pour comprendre et tous ces trucs-là, et me forger une opinion, ou en tout cas Je pense que c'est pas vraiment une opinion, mais une vision globale de la chose, aussi globale que possible. Et du coup, j'ai écrit un texte à la fin pour figer mes idées à ce moment-là, que je relis de temps en temps, que je partage un peu aussi.
Ouais.
Mais du coup, en fait, l'INSA a permis ça dans la mesure où il y a cette souplesse de pouvoir prendre une année de césure.
Oui.
Avec pour motif d'explorer une thématique qui nous tient à cœur, une thématique personnelle. Et même sans année de césure, c'est un peu plus compliqué, je pense, de faire un PPH en s'investissant autant, parce qu'il ne faut pas se mentir, les années à l'INSA sont quand même bien chargées entre les assos, le travail voilà, dans les départements, les stages. On n'a pas toujours l'énergie de faire en plus un PPH à côté.
Ouais.
Mais je pense vraiment que c'est essentiel de maintenir ce caractère un peu obligatoire du PPH qui force l'étudiant à prendre une pause pour penser au sens de son implication dans le monde,
ouais.
Finalement.
Ouais, ça permet de prendre du recul et de garder ce côté un peu humain aussi, et pas que de la technique.
Complètement, ouais. Ouais, okay. Puis il faut garder en mémoire que la technique est politique et l'ingénieur est en grande majorité, je pense, dépolitisé dans la mesure que c'est un passionné de technique, de complexité, qui va chercher à comprendre des trucs, à faire des trucs toujours plus fun avec la technologie, sans forcément faire un pas de côté et dire « Ah, mais attends, ça va être utilisé pour le contrôle des populations ou pour tuer des gens. » Et du coup, en ce sens-là, je trouve ça intéressant quand même de critiquer la fin de la technique, ouais.
Oui, de le remettre dans
le contexte.
Et d'être
capable de le faire ça et de le remettre et voilà, et dans ce sens-là je trouve que l'INSA a vraiment cet atout de proposer ce PPH là.
Ok, écoute, merci beaucoup. Je te laisse aussi, si tu le souhaites, l'opportunité de laisser un dernier message aux étudiants, professeurs, ingénieurs qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un dernier mot à leur dire pour terminer ce podcast?
Eh ben, au sujet de la recherche, si vous êtes curieux, que comprendre des choses vous permet de garder de la motivation pour continuer à chercher, et que vous avez ce sens des communs, finalement, la contribution à la connaissance commune, je pense que vous pouvez vous intéresser à la recherche. Et ouais, n'oubliez pas de faire une pause digne de ce nom pour réfléchir à quel est le sens de votre existence et de votre implication dans la société en tant qu'ingénieur.
J'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup pour cette phrase de conclusion, Adrien. Après cet épisode, je me rends compte personnellement que je ne pense pas être fait pour la recherche. J'ai besoin de quelque chose de concret, rapide et tangible. Pour autant, je suis très content d'avoir fait cet épisode parce que je me dis que dans un autre monde, ça aurait pu potentiellement m'intéresser. D'où l'importance de se poser la question, est-ce que je veux y aller ou pas? Maintenant qu'à titre personnel, je sais que c'est plutôt l'ingénierie qui m'intéresse, il ne reste plus qu'une seule étape, aller contacter des ingénieurs. Mais pour ça, vous le savez, et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la première interview avec un ingénieur.